fait pour les chiens. S'il y a une chose que je veux retenir. France Info.
L'info juste.
Il est 2h, les informations, Héloïse Roger. Une réunion doit se tenir aujourd'hui en Suisse sur la guerre en Ukraine. Toute initiative qui va vers la paix est bonne, a déclaré Emmanuel Macron depuis le G20 en Afrique du Sud. Il plaide pour une concertation plus large et une paix robuste et durable face au plan proposé par Donald Trump à Kiev qui contient beaucoup de concessions au bénéfice de la Russie. À Genève, ce dimanche, seront présents des négociateurs américains, ukrainiens et européens. Une petite concession, cependant, faite par Donald Trump, lui qui avait pourtant lancé un ultimatum donc à son homologue ukrainien pour accepter ce plan de paix d'ici le 27 novembre. Le président américain a précisé hier que ce plan n'était pas sa dernière offre et qu'il souhaitait que cessent les combats d'une manière ou d'une autre. Ce plan en 28 points a déjà été repoussé par Kiev. Il prévoit la cession à la Russie de plusieurs de ses régions à l'est et la Crimée annexée ainsi que la réduction de moitié de son armée. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées partout en France hier dans le silence pour dire stop au narcotrafic et rendre hommage à Mehdi Kessassi, le jeune homme de 20 ans assassiné la semaine dernière à Marseille. La piste d'un crime d'intimidation est évoquée, liée au militantisme de son frère Amine Kessassi, engagé contre le narcotrafic dans la cité phocéenne. Entre 6 et 10 000 personnes étaient réunis, vêtus de blanc, pour soutenir les proches de Mehdi. Ils font front contre le géant chinois du commerce en ligne, Shein. Plus de 80 députés, avec à leur tête la présidente de la commission du développement durable de l'Assemblée, Sandrine Loeffler, réclament l'interdiction de l'enseigne sur le territoire français. Dans la tribune dimanche, ils évoquent la protection des travailleurs, de la santé publique et de la planète. Depuis près de 3 semaines maintenant, la marque asiatique s'est installée au BHV à Paris. Cette semaine déjà, plusieurs fédérations du commerce et des enseignes ont déposé une action en justice pour dénoncer la concurrence déloyale. Du rugby et le 15 de France qui conclut son année par une victoire contre l'Australie au Stade de France, 48-33. Après la défaite contre les champions du monde sud-africains, puis la victoire en demi-teinte contre les Fidji, les hommes de Fabien Galthié finissent l'année avec un ratio positif de 6 victoires contre 5 défaites. Le PSG reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire 3-0 face au Havre hier soir, suite de la 13e journée. Aujourd'hui, Auxerre-Lyon, c'est à 15h. 3 matchs à 17h15. Toulouse-Angers, Brest-Metz et Nantes-Lorient. Pour le dernier match de clôture, Lille reçoit le Paris FC. C'est à 20h45. Et puis du tennis et la Coupe Davis. L'Espagne rejoint l'Italie en finale ce dimanche. Après avoir éliminé l'Allemagne, les Italiens visent une 3e victoire d'affilée. Les Espagnols, eux, vont tenter de remporter leur 7e titre.
Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info.
Les experts.
Et on parle à présent de notre vie quotidienne, on parle de notre argent, de notre travail, de santé, bien sûr. Fanny Guinochet, Sarah Lemoine, Julien Méniel, bienvenue, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Sarah, on parle de nos salaires ce matin.
Transparence salariale, les salariés l'attendent, les entreprises sont loin d'être prêtes.
Vous nous parlez, Julien, vous, d'un blocage.
Oui, je vais vous parler d'une maladie un petit peu particulière que pas mal de monde connaît et qu'on appelle poétiquement le syndrome de la vessie timide.
Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, même si j'ai une petite idée dans 5 minutes. Avant cela, Fanny, tic-tac, sans vouloir presser ceux qui n'ont pas encore commencé à songer au cadeau de Noël, parce que c'est vrai que ça peut sembler loin, mais c'est dans un peu plus d'un mois quand même. Dans les grandes surfaces, vous l'avez sans doute remarqué, les chocolats sont déjà de sortie, mais aussi, bien sûr, les calendriers de l'avant, le choix là est pléthorique.
Il y en a tellement que l'on s'y perd, puisque maintenant toutes les marques en proposent. Il y a le traditionnel calendrier de l'avant avec des chocolats, mais on en trouve désormais avec des cosmétiques, des parfums, des boissons, des bières, des jouets, Lego, Playmobil. La plupart des marques de thé aussi en proposent. On voit même des calendriers saucissons, c'est vous dire. Alors c'est devenu une vraie folie marketing qui trouve son public, parce que si on en croit une étude de l'Institut YouGov, plus d'un Français sur deux envisage envisagent d'acheter un calendrier de l'Avent. Et les jeunes se les arrachent. Plus de 70% des 25-35 ans prévoient d'en acheter un. Idem chez les parents d'enfants de moins de 18 ans. Résultat, certains calendriers sont déjà en rupture de stock.
Bon, est-ce que le calendrier de l'Avent, c'est un bon plan ?
Eh bien, globalement, non, parce que vous payez la magie de Noël. Le marketing, le joli packaging, et chaque marque rivalise d'inventivité avec des petits coffrets, des formes en Rubik's Cube, des formes en étoile, des petites cases prédécoupées, et tout ça, évidemment, à un prix. Et souvent, quand vous rapportez le prix du chocolat au kilo qu'il y a dans votre calendrier, le prix du thé au poids, ou même les cosmétiques que vous trouvez dans chaque petite fenêtre, eh bien, ça revient bien plus cher que si vous achetiez ces mêmes produits en dehors du calendrier. Donc, faites le calcul derrière l'offre alléchante qui, pourtant, souvent vous assure un montant estimé. C'est souvent trompeur. Par exemple, pour les cosmétiques, n'oubliez pas que ce sont des petits formats que vous payez, c'est-à-dire des échantillons et non les formats habituels. Alors, ça a quand même un avantage, c'est que vous pouvez découvrir du 1er au 24 décembre des produits nouveaux.
Oui, même si c'est parfois un peu cher payé, comme vous nous le dites, et attention aussi aux arnaques.
Oui, parce que ces calendriers de l'Avent sont tellement demandés que des escrocs se sont mis sur le créneau en faisant miroiter sur les réseaux sociaux des offres promotionnelles type un calendrier gratuit. Alors vous y croyez, vous rentrez vos coordonnées bancaires pour un ou deux frais de port seulement, et c'est là que vous vous faites pirater votre compte. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé cette année à des clients de Sephora. La marque a dû sonner l'alerte. Non, il n'y a pas de calendrier gratuit. La magie de Noël ne va pas jusque-là, hélas. Ouais.
Voilà, Julien, arrêtez avec ces calendriers que vous essayez de nous vendre depuis tout à l'heure. Merci à vous, Fanny. On continue à parler argent, décidément, avec vous, Sarah. Et ce matin, vous allez bientôt pouvoir connaître le salaire de vos collègues. Et oui, on l'a déjà évoqué sur France Info, obligation européenne. La France a jusqu'au mois de juin prochain pour l'inscrire dans la loi. Alors pour le coup, les entreprises ne sont pas prêtes.
Oui, ça se résume en trois chiffres. Seulement la moitié des entreprises ont entendu parler de la directive européenne sur la transparence des salaires. Un tiers estime en connaître le contenu. Un quart affirme avoir commencé à se préparer, selon l'Association pour l'emploi des cadres, qui a interrogé 800 organisations pour l'occasion. Alors certes, beaucoup d'entreprises attendent de connaître les modalités concrètes de transposition qui sont toujours en cours de discussion. Mais les grands principes sont là, souligne l'APEC. Et plus le temps passe, plus le travail pour se mettre en conformité sera important. Premier exemple, le processus de recrutement. Dans les offres d'emploi, les entreprises seront obligées de communiquer le salaire d'embauche ou une fourchette de salaire. Mmh. Or, d'après le sondage, elles ne sont que 46% à le faire aujourd'hui. Par ailleurs, elles auront l'interdiction de demander aux candidats leur salaire précédent, alors qu'elles sont 6 sur 10 à poser systématiquement cette question.
Bon, donc ça, c'est pour la transparence en tant que telle. La tâche la plus difficile, ça va être de justifier les écarts de salaire.
Mais oui, parce que les salariés pourront demander les niveaux de rémunération de leurs collègues qui occupent un travail de valeur égale dans l'entreprise. Et en fonction du genre, un sujet explosif, alors que les femmes gagnent encore 6,8% de moins que les hommes, à poste et profil identique, sans raison particulière. Résultat, on sent le stress monter chez les managers interrogés par l'APEC. Plus de 6 sur 10 affirment qu'ils auront bien du mal à expliquer les différences de salaire dans leur équipe, parce qu'ils ne connaissent pas toujours l'historique, ni les raisons objectives de ces écarts. Mmh. En plus, il n'est pas rare que de nouveaux embauchés soient mieux rémunérés que des salariés déjà en poste. Et comme les niveaux de salaire seront affichés dans les offres d'emploi, cette information ne sera plus cachée. La peur de voir émerger des conflits inquiète plus de la moitié des chefs d'équipe.
Bon, est-ce que ça veut dire que les écarts de salaire vont devoir être corrigés ?
Alors, on attend les modalités d'application, mais a priori, les entreprises à partir de 100 salariés devront corriger les écarts de rémunération dès lors que ces derniers dépassent 5% et qu'ils ne sont pas justifiés par des critères objectifs. Certaines organisations ont déjà commencé à provisionner de l'argent en prévision des rattrapages, affirme l'APEC. La mise en conformité va donc nécessiter des moyens et beaucoup d'énergie de la part des managers et des services des ressources humaines, souligne l'association, mais cela en vaut la peine quand plus de la moitié des salariés ne comprennent rien à leur rémunération.
Merci à vous, Sarah. Terminons avec vous, Julien. Et donc, ce matin, une maladie un peu particulière et, disons-le, pas vraiment confortable.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez un petit peu, vous êtes sur l'autoroute des vacances, vous avez bu plusieurs cafés pour rester bien éveillé, ça fait une heure ou deux que vous roulez, et soudain, il faut bien vous rendre à l'évidence, il va falloir vous arrêter de toute urgence pour soulager votre vessie.
Bon, jusque-là, tout est normal, non ?
Oui, jusque-là, mais imaginez toujours, vous garez votre voiture, vous vous précipitez dans le lieu d'aisance, vous prenez place parmi les autres usagers, et là, rien. Vous êtes complètement bloqué. Le fait de voir, d'entendre ou de vous savoir à proximité d'autres personnes vous empêche purement et simplement d'uriner. Eh bien, vous faites sans doute de la parurésie.
Bon, je vous remercie de parler en mon nom. On va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette parurésie, Julien?
Bah, on l'appelle aussi l'urinophobie, ou plus poétiquement donc le syndrome de la vessie timide. Et selon la définition du site de l'International Paruresis Association, l'IPA, quelle ironie, la parurésie, c'est le fait de ne pas pouvoir uriner quand on peut être vu ou entendu par les autres, ou quand on pense juste qu'on peut l'être, voire quand on est pressé par le temps ou stressé par quelque chose. Donc initialement, c'est l'impossibilité d'uriner en présence d'autres personnes, mais aussi par extension à cause du stress.
Bon, et d'où ça vient? Pourquoi ça touche certaines personnes? Pourquoi ça n'en touche pas d'autres?
La parurésie, c'est une forme de phobie sociale, donc c'est un trouble qui n'est pas d'origine physique, puisque tout va bien quand on urine tout seul chez soi.
Oui, c'est pas que c'est bloqué en soi.
Pas du tout, c'est d'origine psychologique, mais quand même, on pense que le stress va provoquer une contraction des sphincters de la vessie et de l'urètre. Alors tout ça, ça peut venir d'un trauma lié aux toilettes ou du fait d'uriner dans l'enfance ou de l'éducation qu'on a reçue. Et les répercussions peuvent être très compliquées au quotidien, ça peut même évoluer vers des formes très handicapantes.
Bon, est-ce que ça se soigne quand même?
Bonne nouvelle, oui, ça se soigne, la psychothérapie peut aider, notamment les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et l'association IPA France propose même des ateliers de désensibilisation. L'exposition graduelle, ça fonctionne bien, ça consiste à se réhabituer à uriner en présence d'autres personnes avec des exercices dont la difficulté augmente petit à petit.
Bon, bah voilà, une petite note d'espoir quand même.
Voilà, et une prochaine fois, si vous le voulez, je vous parlerai de la parcoprésie, le syndrome de l'intestin timide.
Oui, bah écoutez, je crois qu'on a compris pour l'instant. Vous reviendrez effectivement pour nous parler de ça. Julien Méniel, merci à vous, merci Sarah Lemoine et merci Fanny Guinochet. Le temps dans quelques secondes.
L'info de l'histoire.
Bonsoir Fabrice Dalméda.
Bonsoir Catherine.
Revenons sur cette marche blanche organisée aujourd'hui à Marseille et dans plusieurs villes de France à la mémoire de Mehdi Kessassi. On voit bien, Fabrice, que toute la France est émue et mobilisée par cette affaire, comme s'il y avait un changement, un avant et un après dans l'histoire des assassinats liés au narcotrafic.
Oui, effectivement, et c'est vrai que quand on pense au trafic de drogue, en particulier à Marseille, ça remonte loin, ça remonte déjà dans l'entre-deux-guerres où on trafiquait à l'époque de l'opium et puis bientôt de la cocaïne. Il y avait des trafiquants qui déjà étaient eux-mêmes en conflit et on avait les premiers morts de ce qui peut sembler être des guerres de la drogue, qui se sont évidemment poursuivies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Chaque année avait son lot de quelques dizaines de morts, entre 10 et 20 en général. Et puis il y a eu des moments où c'est monté beaucoup plus haut, plus près de nous. 1985 par exemple, 48 morts. Et puis encore plus près de nous, en 2019, 49 morts. Donc vous voyez qu'il y a des moments où ça devenait très 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 difficile de vivre vieux quand on était un bandit, quand on était dans la pègre. Mais ces crimes sont particulièrement marquants quand ce sont des victimes innocentes qui sont touchées, des victimes collatérales, comme disent les militaires, et il y en a eu particulièrement au moment de la fameuse French Connection.
Ah bah oui, l'époque où la pègre française faisait transiter l'héroïne destinée à la mafia américaine.
Exactement, et dans ce contexte-là, les gangsters de l'époque, c'était des Jackie Lemat, et en 1978, il y a un soir d'octobre, le 3 octobre, à 20h10, dans un petit bar, le bar du téléphone, et bien trois tueurs entrent et ils vont massacrer toute la clientèle et le patron du bar. Sa femme s'en sort parce qu'elle était montée à l'étage peu de temps auparavant. Et en fait, on se rend compte que parmi les clients du bar, sans doute certains n'étaient pas impliqués dans des affaires de crime ou des affaires de drogue. Cette affaire-là est confiée à un magistrat, le juge Pierre Michel. C'est lui qui doit démêler le gangstérisme dans la région de Marseille et en particulier le trafic de drogue. Mais lui-même, à son tour, est assassiné le 21 octobre. Écoutez comment Christine Ockrent, à l'époque, et le journal de France 2 annonçaient l'événement.
Madame, monsieur, bonsoir. 24 heures après l'assassinat en pleine rue à Marseille du juge Pierre Michel, les milieux de la magistrature, de la police et aussi les milieux politiques donnent libre cours à leur émotion et à leur indignation. Sur place, à Marseille, Corinne Pertuis.
Autour du palais, on rend unanimement hommage au juge Michel. Hier midi, comme tous les jours, il a pris le même chemin qui, de son bureau tout près du palais de justice, devait l'amener chez lui dans le quartier Sainte-Anne. Il ne changeait jamais d'itinéraire, une habitude dangereuse pour un homme menacé.
Un homme menacé, finalement abattu, c'est un meurtre prémédité. On l'a visé comme on avait visé Medik Essassi pour stopper un ennemi. Dans les deux cas, en fait, on voit qu'il y a une espèce de saut dans l'ordre de la violence. C'était le deuxième juge abattu en France depuis 1945, après le juge Renaud à Lyon, le juge Michel. Et évidemment, Mehdi est une figure tout à fait singulière, puisque tué pour envoyer un message. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu d'autres victimes innocentes il n'y a pas si longtemps que ça. En 2023, deux femmes, dont Sokaina, ont été victimes de balles perdues des trafiquants de drogue. Donc, il y a un long combat à mener qui est en cours, à Marseille notamment.
Mais d'autres pays ont traversé des époques semblables, où les trafiquants voulaient briser toute forme d'opposition.
Ben oui, évidemment. Alors, on pense, bien sûr, aux pays d'Amérique latine, le Mexique, où, par exemple, une journaliste, Anabel Hernandez, a vu son père assassiné par les narcotrafiquants pour lui mettre la pression et qu'elle arrête ses enquêtes. En Colombie aussi, hein, le fameux Pablo Escobar, il avait fait tuer un candidat à la présidence, à l'élection présidentielle de 1989. Et plus près de nous, bien sûr, on pense à l'Italie avec ses deux grandes figures qui ont été les juges Falcone et Borsellino. Bref, des crimes qui à chaque fois suscitent des réactions qui nécessitent à chaque fois un nouvel engagement de la part de notre population. S'il y a un combat à mener aujourd'hui, s'il y a une guerre qui est en cours, c'est bien celle contre les narcotrafiquants.
Hommage aux victimes des trafiquants de drogue ce soir dans l'Info de l'Histoire. Fabrice Dalméda, tous les samedis sur France Info et sur notre plateforme franceinfo.fr. Opération Endgame, ce n'est pas l'intitulé du prochain James Bond, mais le nom d'une opération de police internationale qui vient de s'achever mi-novembre contre les exploitants d'un logiciel de vol de données à distance. Expliquez-nous.
Cette affaire illustre le nouveau monde de la criminalité. Un petit groupe d'individus commercialisait à l'échelle de la planète un logiciel espion baptisé Radamantis, un programme permettant de s'introduire à distance dans les systèmes d'information, Venomrat, et contrôlait un réseau massif d'ordinateurs infectés à l'insu de leurs propriétaires légitimes. Pour identifier les auteurs, il a fallu mobiliser depuis mai 2024 les policiers et les magistrats issus de 11 pays, dont la France, sous l'égide d'Europol et de son homologue dans le monde judiciaire, Eurojust. Une seule interpellation est intervenue en novembre, en Grèce, mais des équipements techniques ont pu être saisis et des serveurs informatiques qui leur permettaient de conduire leurs activités ont été bloqués. L'action des policiers ne s'arrête pas là. Europol a ouvert un site internet dédié à cette opération, www.opérationendgame.com, avec notamment un clip mettant en scène les différentes étapes de cette enquête et affichant les visages et les noms des personnes suspectées de piloter cette organisation criminelle. Le site est accessible en anglais et en russe afin de s'assurer que le message soit bien porté à la connaissance des intéressés.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec nos smartphones et nos ordinateurs, nous sommes tous concernés par cette criminalité. Comment savoir si nos appareils ont été infectés par ces logiciels ?
Catherine, pour répondre à cette question, la police néerlandaise a compilé l'ensemble des adresses e-mail qu'ils ont retrouvées dans les dossiers des gestionnaires de ces logiciels malveillants. Ils ont ouvert une page gratuitement accessible en ligne, appelée « Vérifiez votre piratage », »,« Check your hack » en anglais, sur laquelle il vous suffit de mentionner les adresses mail qui vous concernent. Vous recevrez alors dans les 5 minutes un message d'alerte si votre e-mail fait partie des contacts ciblés. Sans nouvelle, c'est que vous n'êtes pas dans leur fichier.
Quelles leçons on peut tirer de cette opération dans le cyberespace ?
Elle démontre tout d'abord que le cyberespace n'est pas une zone de non-droit. Dès lors que les victimes portent plainte, que les États coopèrent, ici principalement des membres de l'Union européenne, dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, et que des acteurs privés, détenteurs de savoir-faire technique, apportent leur contribution. Dans cette affaire, une dizaine de sociétés commerciales ont été amenées à partager leur expertise. Leurs noms apparaissent d'ailleurs aux côtés des services d'enquête nationaux. En France, la police nationale, l'unité de cybercriminalité du bureau du procureur de la juridiction nationale contre le crime organisé et la préfecture de police dans le communiqué officiel d'Europol. D'ailleurs, vous trouverez toutes les références complètes sur la page de la chronique Nouveau Monde, sur le site ou l'application de France Info.
Nom de code, Endgame, la lutte contre les logiciels espions. Nouveau Monde, Nicolas Arpagian, tous les samedis dans le 17-20 et en podcast donc sur franceinfo.fr.
Minuit 6h, France Info, l'info juste. L'œil de Julie.
Parlons maintenant de cette tornade dans le monde du jeu vidéo avec vous, Julie Vialon. Bonjour Julie.
Bonjour.
La bande-annonce du jeu vidéo GTA 6 a tout emporté sur son passage. Elle a été visionnée près de 270 millions de fois sur YouTube. C'est plus qu'un film des Avengers, plus qu'Avatar 2 ou Star Wars 7.
On dirait une bande-annonce de film.
You see, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
L'action se déroule dans un état fictif appelé Léonida, très inspiré de la Floride. Plage, palmiers, soleil, un décor de rêve dans lequel les joueurs incarnent un duo criminel à la Bonnie and Clyde. On explore, on vole, on conduit, on braque et on construit son ascension criminelle. Quand le studio de jeux vidéo Rockstar publie la bande-annonce il y a près de 2 ans, Internet s'emballe, record battu, réaction en chaîne. On voit même des internautes faire des analyses très pointues de la vidéo.
On va commencer bien sûr par le début du trailer avec Jason, hein, particulièrement costaud. Et c'est pour une bonne raison, d'ailleurs on apprend le nom complet de Jason. Il s'agit donc de Jason Duval, un nom qui sonne presque un peu français. Est-ce qu'il y aura peut-être des origines de la Louisiane qui n'est pas très loin de Miami? Peut-être un Jason avec des arrière-arrière-grands-parents français, on verra.
Effectivement, certains tirent le fil très loin. Pourquoi j'étais assis sur cette île autant les joueurs?
Parce que ça fait juste 12 ans qu'ils l'attendent. Le dernier volet GTA V est sorti en 2013, plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Dites-vous que certains y jouaient quand ils étaient au lycée et aujourd'hui, ils sont parents et attendent toujours et oui. Le sixième volet. Surtout que sa sortie a été reportée 2 fois, d'abord de fin 2025 à mai 2026, ce qui avait déjà hérissé les poils des joueurs impatients, et puis récemment de mai 2026 à novembre 2026.
Oh shit! Here we go again.
Donc autant vous dire, pour toute une communauté, c'est un peu comme si Noël avait été repoussé.
Ouais, c'est vrai qu'avec autant d'attentes, l'éditeur n'a pas le droit de se rater.
De l'attente, mais aussi d'énormes enjeux financiers. Selon les médias spécialisés, le coût de production de GTA 6 est estimé à plus $1 milliard. Développement, marketing et publicité confondus. Même les grosses productions hollywoodiennes ne coûtent pas aussi cher. Selon GameSpot, GTA 6 pourrait générer environ $3.2 milliards rien que la première année.
Et ça, c'est la musique de GTA San Andreas.
C'est ça, sorti en 2004.
Ouais, plus de 20 ans. Merci Julie. On vous retrouve en podcast sur l'appli Radio France, l'œil de Julie, tous les week-ends sur France Info. Dans quelques secondes, la météo et votre journal.
L'invité culture, Frédéric Carbone.
L'invité culture arrive avec les bras chargés de cadeaux pour tous ceux qui ne se lassent jamais de rire. Avec Guéluron, Super Dupont, le commissaire Bougrel, le professeur Burp et tous les autres personnages de Gottlieb. Bonjour Ariane Gottlieb.
Bonjour Frédéric.
Matin, quel BD pour plagier votre père. Voilà donc la vie de Gottlieb en bande dessinée de Julien Solé et Arnaud Le Gouefleck et le début d'une intégrale chez Dargo l'année 67, déjà paru, 2 volumes par an. Ensuite, tout ça vous en êtes à l'origine, d'une certaine manière, vous en fournissez la matière avec le fonds Gottlieb. Je parlais de tous ceux qui ont dévoré Gottlieb, mais peut-être cette intégrale-là, elle est aussi pour le découvrir, les plus jeunes, des ados, des jeunes adultes d'aujourd'hui.
Ah oui, c'est ma mission. Pour une certaine génération, ça fait partie de la culture générale, et c'est bien que ce soit comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus jeunes, entre 15 pour Guéluron, et puis 18, 20, 25, sont pas forcément tournés vers le livre à tenir dans les mains. C'est pas qu'il faut les forcer, mais c'est bien qu'ils soient au courant que ça existe et qu'ils peuvent encore en rire aujourd'hui.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas daté, Gottlieb.
C'est pas daté, c'est indémodable et c'est primordial pour la culture générale, selon moi.
Et puis donc, il y a cette vie en bande dessinée. Il avait lui-même écrit une autobiographie. Fils d'une famille de juifs hongrois, réfugiés en France, arrive la guerre, la persécution antisémite. Et le petit Marcel, à 8 ans, qui assiste à l'arrestation de son père, il racontait ça sur France Culture.
Il était peintre en bâtiment et il est parti travailler. Il est passé devant la loge de la concierge. À ce moment-là, il a croisé des flics en civil qui lui ont demandé où habite M. Gottlieb. Ce con-là, au lieu de dire « il est chez lui à 3e étage, porte gauche, escalier F », il vient juste de passer... Vous l'avez raté. Ils ont cavalé après lui, ils l'ont récupéré. Et après, on a vu notre papa remonter. Il nous a dit, c'est pas grave, n'ayez pas peur. Je reviens dans très peu de temps. Et puis, on l'a plus revu.
La déportation de son père, votre grand-père, Erwin Gottlieb, la délicatesse avec laquelle je souligne, c'est dessiné dans cette bande dessinée. C'est assez admirable. Et lui, ensuite, enfant caché, pendant 2 ans, c'est un cliché de dire faire rire, c'est une thérapie. Mais à quel point c'est vrai sans doute pour lui?
Ah, c'est vrai pour lui, comme pour beaucoup d'artistes, comme le film de Benigni. Hein,
c'est le même humour.
Et cette autobio, elle est comme lui. C'est ça que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'elle est très pudique. L'humour y est bien présent, mais il est quand même parfois noir et puis parfois un peu glauque, parce que c'est sa vie qui a été comme ça et qu'il s'est servi de son histoire personnelle justement pour en faire quelque chose d'humoristique.
C'est en permanence en filigrane dans ses BD, mais en même temps, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est la déconne en fait, pour de vrai.
Ah oui, mais toute forme de déconne, qu'elle soit graveleuse ou qu'elle soit poétique, il aimait autant Raymond Queneau qu'il aimait les Monty Python.
Puis il y a le papa de substitution, René Goscinny.
Et puis il y a René Goscinny.
C'est vraiment le père du feu.
Ah mais indéniablement, c'était un amour réciproque, filial et patern, oui ça c'est sûr.
À pilote, et après est-ce qu'il tue le père d'une certaine manière?
C'est exactement ça.
C'est ça, en fondant l'écho d'abord, et l'écho des savanes et puis le feu glacial?
C'est exactement ça, ce qui a eu beaucoup de mal à finalement comprendre au départ René Goscinny, mais qui l'a absous. Les derniers relationnels qu'ils ont eus ensemble, ils s'étaient finalement avoué leur amour mutuel et qui était bien existant.
Mais il n'osait pas lui demander ce qu'il pensait de Flux Glacial et des BD de Flux Glacial.
Je pense que c'est pas qu'il n'osait pas, je pense qu'il connaissait déjà la réponse.
S'il n'aimait pas, il n'aurait pas aimé.
Je ne sais pas s'il n'aimait pas, je pense qu'il était aussi un homme très pudique, René Goscinny, et que... Peut-être qu'il n'aurait pas osé s'avouer qu'il aimait.
Souvent, allez, employant un mot, mais je trouve qu'il n'est pas galvaudé pour lui, les artistes géniaux sont assez solos. Ce qui me frappe avec lui, c'est que s'il n'y avait pas la bande de Flux Glacial notamment, il n'y aurait pas eu Gottlieb. C'est assez égalitaire tout ça.
C'est assez égalitaire, et puis déjà, pour fonder son propre journal, il a quand même tout de suite, immédiatement, fait appel à son ami d'enfance et d'école, qui était Jacques Diamant, sans qui Fluide, et il l'a toujours dit, n'aurait même pas existé.
Je voudrais qu'on dise un mot de la coccinelle, parce que... Pour tant de gens qui lisent Gottlieb, c'est la petite bête qui est dans plein de pages. J'aime à me dire, en vous écoutant, que c'est peut-être vous la coccinelle, la fille unique qui veille sur les planches de papa.
J'en sais rien. Je pense que c'était plus un petit personnage. Il l'a expliqué lui-même pour combler les trous, puisqu'il ne faisait pas de décor, ça le gonflait. Il avait fait pareil avec la petite souris dans Guéluron.
Lui, son personnage, c'est Guéluron. Dépressif, fleur bleue un peu, absurde.
Il y a beaucoup de ça. Il avait déjà trouvé... un premier représentant de sa personne dans Droupy. Et puis, c'est vrai que ce personnage qui dormait tout le temps, il aurait aimé que ce soit lui, puisqu'il était parfaitement insomniaque. C'est une représentation du meilleur de lui.
Vous disiez tout à l'heure que votre mission, Ariane Gottlieb, c'était de transmettre Gottlieb aux jeunes générations. Il se trouve qu'on a reçu la semaine dernière une dessinatrice d'aujourd'hui, okay. Coco. Écoutez-la.
Pour moi, c'est un dessinateur qui a compté au même titre que Franquin, par exemple, ou Réserve. Je me souviens aussi de ce dessin culte de Blanche-Neige avec les nains. C'est vrai que ça m'avait amusé de repenser à ce dessin quand moi-même, j'avais fait une Blanche-Neige qui m'avait valu des cris d'orfraie à Libé.
Bon, on va rappeler que ce n'est pas que le ménage avec les nains, Blanche-Neige, ni chez Coco, ni chez Gottlieb, mais Coco qui dit ce dessin-là, je le lui dois, oser le faire, je le lui dois d'une certaine manière.
Oui, parce que je pense que lui, il a lancé une forme de grosse déconnade qui aurait tendance à être un petit peu en déclin à l'heure actuelle de par la société dans laquelle on vit. Et c'est pourtant important de tout oser et de rire de tout, enfin de tout ce qu'on peut. Alors, pas avec n'importe qui, paraît-il, selon disait un certain Pierre Desproges. Ouais, il faudrait pouvoir encore tout oser, sans censure.
Une curiosité, Ariane Gottlieb, dans La vie en bande dessinée, Goscinny s'adresse à votre père en le qualifiant de brave et généreux Gottlieb.
Généreux, sans aucun problème, ça c'est sûr. Brave, en tout cas dans le bon sens du terme, c'était un homme très gentil, ultra droit. C'est quelqu'un qui se lançait dans aucun conflit. Quand il a dû le faire, ça l'a traumatisé. Et généreux, oui, bien sûr, généreux.
Eh bien, écoutez, vous êtes généreuse, vous nous livrez tout, Gottlieb.
Ah, c'est plus intéressé que généreux.
Vous êtes honnête en plus, et vous êtes sincère. Gottlieb, donc, œuvre complète, 1967 chez Dargo. Gottlieb, une vie en bande dessinée de Julien Solé et Arnaud Le Goué-Fleck aux éditions Fluide Glacial. Merci beaucoup.
L'intégrale, c'est Dargo et Fluide.
Et Fluide, il fallait le redire.
Coédition.
Merci à vous.
Merci.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.
Il est 2h30, les informations, Héloïse Roger. Il faut que la paix revienne dans nos quartiers. Les mots d'Amine Kessassi lors du rassemblement à Marseille aujourd'hui en hommage à son petit frère assassiné la semaine dernière par des narcotrafiquants. Amine Kessassi, militant depuis plusieurs années contre ce trafic, était en tête de cortège avec ses proches. T-shirt blanc et photo de son frère Mehdi imprimé dessus. Sa venue, qui a été maintenue secrète jusqu'au dernier moment, a été très applaudie. Plusieurs milliers de personnes se sont réunis ce samedi. Au total, une trentaine de rassemblements étaient organisés partout en France, à Rennes, Nantes ou encore Toulouse. Des rassemblements également pour lutter contre les violences faites aux femmes à Paris. Plus de 50 000 personnes étaient réunies pour exprimer leur colère. En France, le collectif Nous Toutes dénombre 149 féminicides depuis le début de l'année. Rien que cette semaine, 4 femmes ont perdu la vie tuées par leur conjoint. Un tournant peut-être ce dimanche pour l'Ukraine et une paix possible dans le pays. En Suisse se réunissent plusieurs responsables américains, européens et ukrainiens pour discuter du plan de Donald Trump. 28 points pour mettre fin à près de 4 ans d'invasion russe. Un plan vu avec une grande inquiétude à Kiev puisqu'il reprend plusieurs exigences clés de la Russie, à savoir que l'Ukraine lui cède des territoires dans l'Est et accepte de réduire son armée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà repoussé cette proposition. Le président américain lui a donné jusqu'au 27 pour donner sa réponse. Il reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, dans une vidéo, il se justifie et dit avoir fait ça par curiosité. L'ancien chef de l'État, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a été par la suite placé en détention provisoire. Plus de 2000 personnes se sont mobilisés à Tunis pour la défense des libertés politiques et une amélioration des conditions économiques dans le pays. Des centaines de personnes réunies contre ces injustices. Les manifestants ont aussi réclamé la libération de dizaines d'opposants, journalistes, avocats et travailleurs humanitaires emprisonnés ces dernières années pour des accusations de complot contre le président tunisien Kais Saied, qui s'est emparé des pleins pouvoirs par un coup de force en 2012. Au Roazhon Park à Rennes, une ovation à quelques minutes de la fin pour le retour sur le terrain de Paul Pogba auprès de Monaco. Une entrée après plus de 2 ans sans jouer pour le champion du monde 2018. Malgré son retour, les Monégasques se sont inclinés 4-1 face aux Bretons. Du ski et une médaille d'or française en Coupe du Monde lors du slalom en Autriche. Il s'appelle Paco Rassa, il a 27 ans et il décroche ainsi sa première victoire en Coupe du Monde. Et puis prudence pour ceux qui sont sur les routes cette nuit. La vigilance orange pour neige et verglas est toujours de mise en Île-de-France jusqu'à demain matin, ainsi que dans 6 autres départements plus au sud, la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze et l'Aveyron.
Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info.
Le brief politique, les indiscrets.
C'est l'heure de votre rendez-vous donc pour tout comprendre des coulisses de notre vie politique mouvementée. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour à tous.
Ce matin, comment mettre Jordan Bardella en difficulté? Ses adversaires, notamment au centre, s'interrogent alors que dans les sondages, le président du RN est désormais systématiquement donné en tête en vue de la présidentielle.
Je pense qu'il est trop fort, se désole un député de sa génération pour qui ce que fait Bardella est tout simplement exceptionnel. Et d'énumérer prestance, coups politiques, réseaux sociaux, débats, art oratoire, il maîtrise tous les formats. Règne donc, vous l'entendez, en coulisses, une forme de fatalisme plutôt étonnante d'ailleurs, autour de l'idée que non seulement tout glisse sur le président du Rassemblement National, mais qu'il parvient même à faire oublier son âge, jouant la posture de l'homme politique expérimenté. Et ça, les macronistes le déplorent. Les gens ne pensent pas qu'il a 30 ans. C'est très parisien de se conforter dans l'idée qu'il est jeune et qu'il va se dégonfler, rien conseillé. L'inquiétude se diffuse malgré tout. Jordan Bardella serait désormais totalement installé dans le paysage politique. Oui, il y a de l'enthousiasme dans la population, nous dit ce spécialiste des questions d'opinion, qui évoque la lente construction d'un vote d'adhésion autour de Jordan Bardella, un élu conclu. Il est extrêmement talentueux, certes, mais a beaucoup de lacunes.
Ça veut dire que ces possibles lacunes, c'est l'angle d'attaque des macronistes et de leurs alliés, Paul ?
Étant entendu que l'argument moral, répété que le RN est un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, a beau être factuel, il semble ne plus avoir d'impact dans l'opinion. Une faille est en train de s'ouvrir, se persuade un maire horizon proche d'Edouard Philippe. Le débat budgétaire met en avant leur immaturité économique. On essaye de montrer aux petits patrons que le RN vote l'inverse de ce qu'ils leur disent, se rassure un député du groupe Ensemble pour la République. Autrement dit, Jordan Bardella pourrait être mis en difficulté à la faveur de débats plus techniques. Autre angle d'attaque des prochaines semaines, dire que c'est le candidat de l'argent du système Bolloré, cingle un communicant qui cite les médias du milliardaire Vincent Bolloré comme CNews ou les éditions Fayard, éditeur de ses deux livres. Bardella n'a recours qu'à des lieux communs. Il va se jupéiser, croit savoir un ancien ministre, pour se convaincre que le président du RN est peut-être parti trop tôt, trop vite, trop fort dans les sondages. Une campagne présidentielle, c'est du laser permanent. Vous êtes scruté H24 aux un ministre. Quand un élu pense avoir trouvé le point sensible, c'est le favori. Et ce n'est jamais simple d'aborder une élection comme ça. Bardella a le melon, il est devenu prétentieux.
Merci à vous, Paul Barcelone.
Le billet science.
Et c'est l'heure de nos découvertes scientifiques. Bonjour Bill François.
Bonjour.
Ce matin, découverte fracassante. Direction pour ça, l'Amazonie au cœur de la forêt vierge. On l'imagine immaculée, jamais touchée par l'homme. Sauf, et c'est ce que vous nous dites Bill, qu'on en est bien loin, c'est ce que disent des chercheurs boliviens.
Et oui, cette découverte s'inscrit dans une grande redécouverte de la véritable histoire de l'Amazonie. On a longtemps cru que cette forêt, qui couvre à elle seule 4% des terres de la planète, était très peu peuplée, un vrai désert humain. Mais en réalité, toute une civilisation s'y développait depuis le néolithique jusqu'au XVIe siècle, avec jusqu'à 10 millions d'habitants qui ont modelé la région, transformé ses paysages. Ce sont même eux qui ont domestiqué des végétaux comme le manioc, le cacao, la courge ou le maïs. Toute cette agriculture s'effectuait sous la forêt, donc en harmonie avec les cycles naturels, et faisait l'objet de vastes échanges commerciaux entre des grandes cités perdues. Tout ça est juste oublié aujourd'hui, car cette civilisation s'est brusquement effondrée, décimée par les maladies apportées par les conquistadors.
Alors on a des traces qui en témoignent.
Oui, les images satellites des paysages révèlent des vestiges d'infrastructures, des villes, des routes. D'autres indices sont la présence d'espèces végétales, ou encore la composition des sédiments ou des dépôts de pollen. Dans la dernière étude réalisée en Bolivie et publiée la semaine dernière, ces indices ont permis de montrer qu'entre l'an 600 et l'an 1400 a même fonctionné tout un système hydraulique de pointe qui permettait aux populations locales de cultiver au rythme du fleuve dans des forêts qui sont inondées la moitié de l'année.
Et est-ce que tout ce savoir-faire dont vous nous parlez, ça a disparu ?
Certainement pas. Malgré les massacres, épidémies et acculturations, plusieurs centaines d'ethnies vivent toujours aujourd'hui en Amazonie. Il ne faut pas les imaginer comme les derniers témoins d'un passé disparu, mais plutôt comme nos contemporains, dont le mode de vie en harmonie avec la nature est souvent plus à la page que le nôtre, pour répondre aux défis écologiques. Ces hommes et ces femmes ont, la semaine dernière encore, manifesté par centaines lors de la COP30 au Brésil. Mieux on connaîtra l'histoire ancienne et la culture de ces peuples, plus on en tirera de leçons pour mieux cohabiter avec le vivant qui nous entoure. La science souhaite donc aux paysages d'Amazonie de nous laisser lire leur passé, plein de solutions pour l'avenir.
Merci à vous, c'était Bill François. La météo arrive tout de suite.
Minuit 6h, France Info, l'info juste. Le journal des Outre-mer.
Le tribunal de Fort-de-France en Martinique a rendu cette semaine sa décision dans une affaire de déboulonnage de statut. Les faits remontent à l'année 2020. Sur les 11 militants poursuivis, seuls deux ont été déclarés coupables, mais dispensés de toute peine. Maître Alik Labejoff-Lordino, l'un des représentants des militants, salue la décision du tribunal.
Il a bien compris que l'acte posé par ces militants-là était justifié par la symbolique totalement inacceptable de ces statues dans le paysage martiniquais. On ne peut pas accepter que des statues représentant des personnes qui ont encouragé, qui ont participé, qui ont bénéficié de l'esclavage soient toujours mises en avant comme ça dans le paysage martiniquais. Parce qu'il y a une forme d'inaction qui existe toujours, parce qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a toujours des statues qui sont problématiques, il y a toujours des noms de rues qui sont problématiques, et donc il y a une remise en question globale à mettre en œuvre. Et urgemment, parce que le fait de conserver ces symboles-là nuit nuit à la réflexion globale, à l'émancipation d'un peuple qui a besoin de se reconnaître et de reconnaître ses valeurs.
Autre procès, il a eu lieu cette semaine à Paris, celui de Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui est accusé notamment d'avoir indûment perçu 67 000 euros d'incitation financière au départ à la retraite. Le parquet a requis jusqu'à 5 ans d'inéligibilité et une peine de prison avec sursis contre le président de la CTM, délibéré attendu le 19 février prochain. Direction la Nouvelle-Calédonie à présent avec ce soulagement pour les habitants de Pueblo. Un médecin vient de s'installer au centre médical. Depuis lundi, ils peuvent bénéficier à ses habitants de soins directement dans la commune après plusieurs mois passés sans praticien. Reportage Nouvelle-Calédonie, la première, de Brice Bachon.
Après 6 mois sans médecin, c'est le soulagement pour Hilarion, habitant de Pueblo.
C'est important que d'avoir un médecin pour les gens de Pueblo. Parce que ça fait 5 mois ou 6 mois on n'avait pas de médecin. Et puis là, c'est bon, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous amène à...
Dans le cabinet, Jean-Pierre, 65 ans, vient renouveler une ordonnance. Un acte bénin, mais qui, sans médecin sur place, représentait près de 4 heures de route aller-retour pour aller à Koumak, par exemple.
On est un peu satisfait, là, mais comme le médecin ne va pas rester longtemps ici, il va se... peut-être 6 mois ou 3 mois, puis voilà. Après, ça va être la même galère.
La durée du contrat signé jusqu'à la fin du mois de mars prochain, un contrat court, mais déjà une bouffée d'oxygène pour la population et le sentiment d'être utile pour Pierrick Mao, le médecin.
Je sais qu'il était quand même très attendu ici. Oui, moi, c'est ce que je recherchais, un CMS bien isolé, où il y avait besoin de moi, où je me sens un peu utile.
Un retour à la normale précaire pour les habitants de Pueblo, en attendant de savoir si les postes seront renouvelés ou remplacés en mars 2026.
Le premier crématorium animalier de l'île de la Réunion pourrait bientôt voir le jour. Un chef d'entreprise du département a ce projet à cœur. Erwan Ponet, Réunion la Première.
C'est une estimation et elle fait état de 300 000 animaux domestiques à La Réunion, des chats, des chiens pour la plupart. Et quand il vient l'heure de rendre hommage à ces animaux de compagnie, les maîtres sont souvent confrontés à la problématique de la sépulture à offrir à leurs compagnons. Le concept d'un crématorium animalier refait donc surface et pour son promoteur Christophe Bigot, le projet est plébiscité par les propriétaires d'animaux et les vétérinaires.
Nous avons eu un retour à 99% d'avis favorables. On a sondé à peu près 5000 personnes, ce qui est quand même déjà important. Et nous avons sondé également l'ensemble des praticiens de la cause animale. L'ensemble des praticiens sont également hyper favorables pour ce projet.
Christophe Bigot est à la recherche d'un terrain pour mener à bien son projet. Un service qui sera facturé à partir de 150 euros pour une incinération et la possibilité de garder ainsi les cendres de son animal de compagnie.
Coût estimé de l'investissement, 1 500 000 euros. Edwige Saint-Thomas, Outre-mer la Première pour France Info.
Info immobilier.
Parlons immobilier maintenant. Bonsoir Olivier Marin.
Bonsoir Catherine.
Il est désormais possible, à titre privé, de soutenir des projets qui intègrent des critères sociaux et environnementaux. C'est ce qu'on appelle l'immobilier social et solidaire. Comment ça marche ?
Alors oui, hein, il est possible d'investir dans l'immobilier sans penser profit, rentabilité, mais plutôt intérêt général. Donner du sens à son épargne, c'est investir dans un immobilier responsable et à impact. C'est une tendance et des modèles qui se développent de plus en plus. Alors, il existe des foncières dédiées. Ce sont des sociétés qui collectent des fonds auprès d'investisseurs publics et privés pour acheter et rénover des biens immobiliers qui sont ensuite transformés en nouveaux lieux de vie ou loués à des personnes en difficulté, familles monoparentales, jeunes en insertion, etc., à des loyers abordables et adaptés.
Et quelles sont ces foncières solidaires ?
Alors, il y a par exemple Belleville, qui a été créée par des jeunes ingénieurs, soutenue par des institutionnels, mais aussi des particuliers. Belleville permet de réhabiliter des immeubles vides, des commerces se désaffecter pour les transformer en logements, en lieux partagés, en ateliers ou en espaces d'activité. Des opérations sont menées, notamment à Toulouse, Saint-Denis, Marseille, Valenciennes, Albi ou encore Le Havre. Et puis dans le même esprit, il y a Village Vivant qui rachète et rénove des locaux vacants dans les campagnes pour y installer des commerces et des lieux de vie. Alors c'est financé par l'épargne citoyenne, accessible pour les particuliers à partir de 100 euros, avec à la clé une réduction d'impôts et des rendements modérés et surtout une utilité locale. Village Vivant a déjà ouvert plus de 30 lieux, des cafés, boulangeries, des épiceries, des tiers-lieux dans 13 départements.
D'autres foncières existent ?
Oui, alors parmi les autres foncières, il y a Caritas Habitat, qui est une foncière à vocation sociale. Il y a Habitat et Humanisme, plus connu, qui a déjà plus de 10 000 actionnaires. Il y a La Main, foncière culturelle. Il y a Fratrie, il y a Bien Commun. Et puis, cette semaine, a été lancée par la métropole de Lyon la coopérative Logement d'abord. C'est une foncière dont la signature est repérer, acquérir, réhabiliter, pour ensuite proposer des logements accessibles avec des loyers adaptés. Et la métropole s'est associée au mouvement Solidarité Nouvelle pour le logement.
Et est-ce qu'il va y avoir d'autres initiatives prochainement?
Oui, alors il y a des collectes en cours et à venir. Investir dans l'immobilier solidaire, c'est plus qu'un simple placement. C'est vraiment contribuer concrètement à des projets utiles aux habitants avec un ancrage local, tout en préservant, voire en valorisant le patrimoine. Et donc, en ce mois de novembre, il y a des initiatives dans le domaine pour la finance solidaire. Parmi les rendez-vous, il y a la KISS, la Kermesse de l'immobilier social et solidaire, qui se tient à Paris le 27 novembre prochain. Des tables rondes, des ateliers, des rencontres avec les acteurs de cet immobilier solidaire. L'occasion de s'informer et peut-être de participer à l'essor de ces modèles qui mêlent immobilier et solidarité.
Pourquoi et comment investir dans l'immobilier social et solidaire? Olivier Marin du Figaro Immobilier. Info Immobilier, c'est tous les samedis sur France Info et en podcast, bien sûr, sur franceinfo.fr.
J'ai testé pour vous.
Comme tous les week-ends, Ingrid Pohu qui expérimente les nouvelles tendances loisirs. Aujourd'hui, Ingrid, vous êtes allée voir de drôles d'animaux de très très près.
J'ai testé pour vous le safari du parc animalier Planète Sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes.
Donc je suis Juliette Fontaine, je suis guide animalière à Planète Sauvage.
Qu'est-ce que c'est que cette voiture-là?
On est dans un Land Rover.
On a 80 hectares à Planète Sauvage.
Qui sont exploités pour la piste safari et la zone piétonne, donc ça fait des très grandes plaines pour nos animaux.
Et l'équipée sauvage, on est
8. Mais au moins vous allez vous tenir chaud, hein, moi je vous le dis. Et de toute façon, on part pour l'Afrique. Avec nos rhinocéros là-bas. Il est en train de se s'aiguiser la corne là-bas.
Ah, okay. Il a un petit prénom, le rhinocéros?
Alors oui, là on a Dinari juste devant nous. Il a 12 ans et c'est le plus gros. Et il fait 2,5 tonnes. C'est l'une des espèces les plus braconnées au monde à cause des deux cornes qu'ils ont au bout du nez, qui sont faites de la même matière que vos ongles et vos cheveux, c'est de la kératine. Le problème, c'est que c'est selon certaines croyances, dans certains pays asiatiques, si vous mangez cette corne de rhino réduite en poudre, bien soit vous allez faire plus de bébés, soit vous allez guérir de certaines maladies. C'est bien sûr complètement faux.
Alors là, on a carrément les girafes qui passent devant nous, devant la voiture. Salut les filles! Je tends le bras quasiment et je peux la caresser. Ah, elle passe la langue.
Regardez, hop là! Oh, génial! Donc l'impala, on l'appelle le McDo de la savane en Afrique du Sud.
Quelle horreur!
Ouais, c'est horrible. Et parce qu'elle se fait manger par tout le monde. Et voyez donc les trois traits noirs sur les fesses, c'est ce qu'on appelle un follow me sign, un signe suivez-moi en anglais. S'il y a un prédateur, on regarde les fesses en face de nous, on va retrouver son groupe. Heureusement que nous on fait pas ça.
Faut vrai qu'on ait les fesses à l'air déjà.
Là, on a nos deux tigresses, là.
Tigre de Malaisie. Hein.
C'est deux sœurs, Sita et Kara.
Deux sœurs qui se font un petit câlin. Magnifique. Sous un rayon de soleil, l'amour existe encore.
On y croit. Les ours noirs, là, ils font 150 kilos. On a Casca et ses trois petits.
Ça fait très booba, mon petit ourson. Je sais pas si vous avez la ref. Chantal Goya.
Si, et on avait un ours avant qui s'appelait Booba.
Alors ça, c'est une info.
Une exclue.
Les zèbres n'ont pas des rayures noires, mais en fait, ils ont des rayures blanches.
Exactement. On aurait tendance à dire que c'est le contraire, mais en fait, le petit embryon, quand il se développe, il est tout noir. D'accord. Et au fil de la gestation, il développe les rayures blanches. C'est fou, hein?
Et ben là, il y a un lama qui est planté au milieu de la route. Salut.
Mais on évite de se faire cracher dessus. Alors, ils crachent pas de la salive, hein, les lamas. Ils vont cracher du vomi.
Ah,
c'est le contenu de leur premier estomac, comme c'est des ruminants.
On a vu des choses incroyables. Et merci pour toutes ces anecdotes.
Ah bah, j'en ai encore plein. Oh, on a un pan qui fait la roue là-bas. Regarde, on va s'arrêter là.
Hop. À vous de tester.
Ingrid Pohu, j'ai testé pour vous. C'est à réécouter comme d'habitude sur franceinfo.fr et sur l'application Radio France.
L'Empire des séries, Laurent Vallière.
Des zombies pas comme les autres, comme vous et moi. Pour sa première série après Breaking Bad et Better Call Saul, le créateur américain Vince Gilligan revient à la science-fiction. Lui qui avait débuté en écrivant des épisodes de X-Files et fait de la Terre entière, ou presque, des zombies.
Bonjour Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire?
Une étrange onde martienne atteint la quasi-totalité de la population et nous rend gentils et soumis. Tous, sauf 12 personnes, dont l'héroïne Carole.
Bonjour Carole. Bonjour Carole.
Tous
qu'on veut, c'est votre bonheur.
Et ce n'est pas pour le meilleur des mondes. L'idée est venue naturellement à Vince Gilligan.
Ça fait 23 ans que je n'avais pas écrit pour des personnages héroïques. Mulder et Scully dans X-Files étaient des héros. Ils en bavaient vraiment pour essayer de sauver le monde. Après, au début des années 2000, je me suis un peu lassé. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent, écrire pour des anti-héros. Ça a été Walter White, Saul Goodman et tous ces mauvais gars qui n'ont aucune intention de rendre le monde meilleur, mais seulement de gagner de l'argent pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, j'en suis un peu fatigué. Et puis, regardez le monde autour de nous. Je me suis dit, est-ce que le monde a le plus besoin de personnages bons ou mauvais? Et la réponse est simple, de personnes qui font le bien.
L'héroïne est donc Carole, autrice de romans à succès en plein doute, une romancière avec du tempérament, Vince Gilligan.
Pour moi, Carole ne cherche pas à devenir une héroïne. C'est une héroïne imparfaite. Elle a énormément de défauts, mais elle veut rendre le monde meilleur. Elle veut réparer le monde. Et pour moi, c'est ça qui fait un héros.
J'ai juste une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir? Comment j'annule tout ça?
Au cours des épisodes, la série surprend aussi par le temps qu'elle prend. On croirait presque de la slow TV. Et c'est exprès, Vince Gilligan.
Oui, j'aime les séries qui avancent un peu plus lentement. Nous vivons maintenant dans un monde très rapide. Il y a TikTok et YouTube. Et on vous dit, attention pour les jeunes maintenant, il faut tout faire tenir en 10 secondes. Plus personne n'a de capacité d'attention. Or, pour moi, c'est faux. Et Pluribus s'adresse à un public qui veut ralentir un peu.
Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue.
Le découvrir, pourquoi?
Afin que vous nous rejoigniez.
Pluribus, des épisodes vraiment surprenants, la plus belle idée de série de l'année, à découvrir sur Apple TV.
Kibritler burada, alt katta banyoda. Hep bir olay var da, olan hiçbir şey yok. Kazan hep kaynıyor, kapta yemek yok. Bak Çin'de açlık var, önündekini bitir.
Les experts culture.
Quel film aller voir au cinéma ce week-end si vous n'êtes pas emballé par les nouveaux blockbusters américains comme Running Man? Suivez les conseils de notre expert ciné, Matteo Maestracci. Bonjour Matteo.
Bonjour, j'ai bien aimé Running Man.
C'est vrai? Oui. Ça a l'air plutôt bien. On ouvre en tout cas cette semaine avec le dossier 137, le nouveau film de Dominique Moll.
Bonjour Monsieur Cordier, je suis le commandant Bertrand de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier.
3 ans après le triomphe de La Nuit du 12, qui avait remporté 6 Césars, dont celui du meilleur film, Dominique Moll s'intéresse encore à la police par la fiction, mais regarde cette fois du côté de l'IGPN, qu'on appelle aussi la police des polices, chargée d'enquêter sur les siens, après ce qui ressemble ici à des violences policières injustifiées en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Une enquête que Stéphanie Léa Drucker va prendre d'autant plus à cœur que le jeune homme, grièvement blessé à la tête par un tir de LBD, vient de la même ville qu'elle, en Haute-Marne, et après la police judiciaire dans La Nuit du 12. Ce sont donc les coulisses du travail de l'IGPN qui ont intéressé cette fois Dominique Moll, réalisateur.
C'est une institution qui est décriée à la fois de la part des policiers qui disent que l'IGPN c'est des traîtres et qui donnent une mauvaise image de la police, et de la part de certains médias qui leur reprochent d'être jugés partis et de mal faire leur travail. Donc ils sont dans une position très inconfortable, et ça m'intéressait de me dire, tiens, si le personnage principal est justement enquêteur ou enquêtrice à l'IGPN, ça peut être une piste de départ intéressante. Ça m'intéressait de voir des policiers enquêter sur des policiers.
Tu parles correctement, s'il te plaît.
Et vous les avez retrouvés? Les flics, là, qu'on fait ça, vous les avez retrouvés?
Monsieur Cordier, c'est nous qui posons les questions.
Parce que vous allez me croire.
Et après, dans les faits, c'est pas l'IGPN, enfin c'est dit dans le film aussi, qui décide de mise en examen ou de condamnation. C'est comme dans une enquête de police judiciaire normale, c'est le parquet. Mais le fait est qu'il y a quand même peu de mise en examen et peu de condamnation. Donc ça leur retombe dessus, même s'ils ont finalement bien fait leur travail et livré un dossier bien ficelé.
Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.
Extrêmement précis grâce à un montage rythmé de chaque étape de cette enquête, dossier 137 brille par son aspect pédagogique, presque documentaire, et un parti pris qui réussit habilement à être empathique avec le manifestant blessé tout en montrant que les policiers qui dérapent existent mais sont minoritaires. Et puis ai-je besoin de préciser que dans le rôle principal, Léa Drucker est encore une fois magistrale.
Et qu'il faut lui donner un César pour l'ensemble de son œuvre cette année.
Oui,
je le dis aussi.
Après celui pour Jusqu'à la garde.
Exactement. Autre film français à voir cette semaine, selon vous, Mathéo, Des preuves d'amour, réalisé par Alice Douard.
Premier long métrage qui prolonge son cours L'attente de 2022 et un récit autobiographique, soit un couple de femmes trentenaires, Nadia et Céline. La première, jouée par Monia Chokri, est enceinte et sa compagne, qu'interprète Ella Rumpf, nous sommes peu après le vote de la loi Taubira, mariage pour tous, de 2013. Sa compagne doit prouver à l'administration française qu'elle veut et peut adopter cet enfant à naître, notamment via 15 témoignages authentiques de proches en sa faveur, les fameuses preuves d'amour. Tout en encaissant les commentaires souvent maladroits de son entourage ou de ses interlocuteurs, Monia Chokri a aimé la représentation de ce couple.
C'est le parcours d'un couple normal, voire ordinaire, qui, par leur statut politique et social et par leur désir d'avoir un enfant, vont avoir un parcours extraordinaire, un parcours du combattant. Encore aujourd'hui, quand on raconte des histoires LGBTQIA+, je trouve qu'il y a une tendance à être un peu folklorisant dans la manière de dépeindre ces êtres humains-là, donc dans leur côté un peu extravagant, dans le côté un peu fête, dans le côté un peu gay pride.
Vous avez fait comment alors?
Ben, on a fait l'amour.
Ah, ben oui, non.
C'est une fille.
Oui.
Ah, c'est bien, tant mieux.
T'as pas peur d'être jalouse?
Jalouse de quoi?
Et qu'en fait, ce qui est beau là, c'est que c'est vraiment un couple de femmes tout à fait normal. C'est là où on sent tout l'attachement aussi qu'on peut avoir et l'empathie et la résonance avec le fait que finalement, ce qu'on peut imaginer de différent de nous est plutôt assez similaire.
Et il est qui ce bébé?
C'est moi le papa, ça toi?
On fait ça ensemble, que ce soit toi ou moi, c'est pareil.
Avec des petits défauts qu'on retrouve dans la plupart des premiers films, Des preuves d'amour touche par sa justesse ou son humour inattendu et en future mère qui cherche sa place, et La Rumpf après Grave où le théorème de Marguerite prouve à nouveau son grand talent. Enfin, je vous conseille le magnifique documentaire Pompéi sotto le nuvole et Pompéi sous les nuages, réalisé par Gianfranco Rosi, qui raconte dans un très beau noir et blanc l'histoire de ce territoire napolitain devenu culte dès l'Antiquité à travers ses paysages ou ses habitants.
Merci beaucoup Mathéo pour ces propos. On vous retrouve la semaine prochaine, vous ferez de nouveau irruption dans ce studio pour vos beaux conseils. Bonne semaine, à suivre la météo et le journal de midi.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.
Madness passed me by, she smiled high.
I nodded, looked up as the sky began to cry. She shot it, met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia's such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no news.